Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport. C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Bon lundi. En ce début de semaine, c'est Marianne Paquette qui vous parle. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. À savoir que 7,4 millions de personnes au Canada vivent avec l'hypertension artérielle. Et en plus, ça a des risques de se développer avec l'âge. Donc, on dit que 50 % des hommes ou des femmes qui sont âgés de 60 ans et plus vivent avec la haute pression. La prévention, la maîtrise de l'hypertension artérielle, c'est possible, mais encore, il faut comprendre de quoi il est question. Et j'en parle en deuxième partie d'émission avec Lynne Cloutier, elle qui est infirmière, également professeure titulaire au département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais d'abord, donner un rein de son vivant, c'est pas une décision que l'on prend à la légère. Ça a bien sûr beaucoup d'avantages pour les gens qui ont besoin d'une transplantation, mais c'est un procédé auquel il faut réfléchir comme il faut. La Fondation canadienne du rein, Division du Québec, a développé un site intitulé jedonneunrein.ca qui a pour but de faciliter ce processus-là. Et qui tente de donner de façon très vulgarisée de l'information au grand public à des donneurs potentiels pour qu'ils puissent faire un choix plus éclairé. Je parle de cette initiative-là dans quelques instants avec Martin Munger, lui, directeur général de la Fondation canadienne du rein au Québec. Martin Munger, bonjour.
Bonjour.
On pouvait lire dans Le Devoir le 22 novembre dernier, dans un article signé par Isabelle Paré, que 1000 Québécois, qu'il y a 1000 Québécois qui sont en attente d'un organe. Et sur ce nombre, il y a seulement la moitié qui obtiendra une greffe cette année. Est-ce que l'initiative Je donne un rein.ca, c'est une façon également, parce qu'on connaît les impacts, là, il y a des gens qui perdent la vie faute d'avoir accès à un organe qui pourrait les sauver. Est-ce que cette initiative-là, c'est aussi une façon de mettre en place une façon de s'organiser pour être plus efficace et aller rejoindre un plus grand nombre de donneurs potentiels?
Ça fait partie d'un ensemble de mesures, effectivement, qu'on a proposées. Pour favoriser l'augmentation du nombre de greffes rénales au Québec. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a plus de 1000 personnes en attente d'un organe et il y a à peu près 78 % de ces personnes-là qui attendent un rein. Donc, on a proposé différentes mesures pour favoriser l'augmentation de la greffe rénale et c'est des mesures de tous ordres, que ce soit l'organisation du système de santé, que ce soit une meilleure connaissance du don vivant. Et c'est dans cette optique-là qu'on a lancé le site web jedonneunrein.ca pour que les personnes aient plus d'informations sur la possibilité de donner un rein. Parce qu'on entend souvent de gens chez nous, des donneurs, des gens qui ont déjà donné un rein, de dire que je ne savais pas avant qu'on pouvait donner un rein, je l'ai appris par hasard. Donc, de là est venue cette initiative-là. Aussi pour appuyer le donneur dans sa démarche. Des fois, le donneur veut bien faire, il veut donner un rein à son proche, mais fait un peu d'embonpoint, fume ou des choses comme ça. Ben, on a voulu lui aussi procurer des ressources qui lui permettrait peut-être effectivement soit de réduire son poids, soit d'arrêter de fumer, des choses comme ça.
Martin, vous parlez de hasard, mais j'ai aussi l'impression que souvent, quand on pense à donner un rein de son vivant, c'est parce que quelqu'un dans notre entourage en a de besoin pour sa survie et qu'on a envie de contribuer, on a envie de préserver la vie d'un proche qu'on aime. Et il y a quand même besoin parfois d'un lien affectif entre donneur et receveur. C'est quelque chose que je ne savais pas, moi.
Bien, en général, effectivement, quand je parlais de hasard, c'est qu'ils ont appris la possibilité de donner un rein de son vivant. C'est ça qu'ils ont appris par hasard. Mais effectivement, dans la plupart des cas, il y a une relation entre le donneur et le receveur. C'est pas le fruit du hasard, comme vous le soulignez, effectivement. C'est souvent un proche. Et en général, effectivement, dans le cadre de l'évaluation et tout ça, on va s'assurer effectivement qu'il y a ce lien-là. Quoiqu'il y a des personnes, mais c'est plus des exceptions que la règle, il y a des personnes qui vont offrir de donner un rein ou qui ont même donné un rein alors qu'ils ne connaissaient pas un receveur potentiel. Je vous donne un exemple. En décembre 2011, il y avait au Canada, là, depuis l'existence du registre canadien sur le don croisé, il y a 32 donneurs qui ont donné un rein, mais qui ne connaissaient pas le receveur potentiel. Ils l'ont fait par un geste purement altruiste. Mais si vous voulez, ce n'est pas la majorité des donneurs. La très, très grande majorité des donneurs ont un lien soit familial, soit affectif.
Oui, que ce soit de l'amitié. Oui. C'est quoi un don croisé?
Un don croisé, c'est... Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une maladie rénale et qui a besoin d'une greffe. Vous vous offrez à lui donner un rein. Par ailleurs, on fait des tests et tout ça, et il y a malheureusement incompatibilité au niveau du groupe sanguin ou d'autres incompatibilités. À ce moment-là, on a créé à l'échelle canadienne un registre où vous et votre receveur, va s'inscrire dans ce registre-là. Et il y a peut-être ailleurs au pays une autre paire donneur-receveur qui est dans la même situation, mais okay. dont le donneur pourrait être compatible avec votre proche et vous pouvez être compatible avec le receveur à l'autre bout du pays. Donc, c'est pour permettre ces croisements-là, pour favoriser plus le don vivant, effectivement, et pour réduire les effets de l'incompatibilité qu'on a créé ce registre-là. Et ça offre de nouvelles voies là, pour des gens qui
sont prêts à donner, mais qui ne peuvent pas le faire faute de compatibilité. Tout à l'heure, Martin Munger, vous disiez, bon, si on fait de l'embonpoint, si on est un fumeur, peut-être que c'est moins évident de donner. Est-ce qu'on peut quand même donner? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Est-ce que tout le monde peut donner un rein?
Malheureusement, non. C'est pas tout le monde qui peut donner un rein. Le premier critère, je vous le dis assez largement, il faut être en bonne santé.
Ouais.
Il faut être en bonne santé parce que, on peut vivre avec un seul rein. C'est le cas de tous les donneurs, mais il y a même des gens qui naissent avec un seul rein, ça existe. Mais c'est sûr que s'il nous reste un seul rein, il faut que ce rein-là soit fonctionnel. Et il faut aussi que d'autres aspects de notre santé fassent en sorte que ce rein-là va rester pleinement fonctionnel toute sa vie. Voyez-vous, en début d'émission, vous faisiez lien avec votre deuxième sujet.
L'hypertension artérielle.
Un des facteurs qui peut conduire à l'insuffisance rénale, un des deux facteurs premiers, c'est l'hypertension. L'hypertension, à la longue, peut avoir un effet sur les petits canaux sanguins qui irriguent le rein. Et donc, si ces petits canaux-là deviennent plus sclérosés, tout ça, bien, le rein est affecté. Donc, c'est sûr que la personne qui fait de l'hypertension, qui n'est pas contrôlée, à ce moment-là, ce serait plus difficile. Je dis plus difficile parce que je suis pas médecin et je veux pas non plus dire que c'est absolument impossible. Je pense que l'idée là-dedans, c'est si on veut donner un rein à un proche, c'est d'aller manifester son intention et d'aller faire les examens qui sont nécessaires. Et les examens vont pouvoir indiquer si la personne peut donner un rein ou pas.
Est-ce que c'est un long processus une fois qu'on a pris la décision?
C'est un processus qui est quand même assez long parce qu'il y a quand même plusieurs examens à passer. Ça peut prendre au minimum quelques mois. Là, c'est pas quelque chose qui se fait entre la décision de vouloir donner un rein et l'intervention chirurgicale pour le faire. Ça se fait pas en dedans de deux semaines. Là. Il y a un processus d'évaluation psychologique, il y a un processus d'évaluation médicale. Mm-hmm. Tout ça prend du temps. Il faut avoir les résultats de ces examens-là et donc des rencontres aussi pour l'évaluation psychologique. C'est sûr que les professionnels de la santé vont vouloir s'assurer effectivement que les motifs pour donner un rein sont adéquats, que la personne est bien au courant de tout le processus et le fait aussi pour les bonnes raisons. Par exemple, on voudrait pas que quelqu'un donne un rein pour que le receveur lui soit redevable, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on va que les professionnels de la santé vont évaluer adéquatement. Donc, tout ça prend un certain temps, effectivement.
Quelles sont les chances de réussite en ce qui a trait à l'opération?
Bien, les chances de réussite sont assez bonnes en général.
95%, je pense, hein?
Oui, sont très, très bonnes. C'est sûr que c'est une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie et il y a toujours des risques reliés à une intervention chirurgicale. Je pense que c'est important de le mentionner. Par ailleurs, c'est une intervention chirurgicale. Le prélèvement du rein se fait par laparoscopie. Laparoscopie, vous savez, on fait des petites incisions, on insère des caméras à l'intérieur et donc c'est une grande amélioration parce qu'auparavant, c'était une seule incision, mais qui était plus longue. Donc, ça nécessitait, par exemple, de couper des muscles, des choses comme ça. Donc, avant, la convalescence pouvait être plus longue. Maintenant, par la laparoscopie, bien écoutez, en général, il peut y avoir des exceptions à ça. La personne va sortir de l'hôpital de 2 à 5 jours après l'intervention. Par ailleurs, ça peut nécessiter quand même une convalescence d'1 à 2 mois là, après, là, avant le retour au travail, par exemple, ou des choses comme ça. Mais de 2 à 5 jours, la personne peut quitter l'hôpital normalement, là, sauf exception, bien entendu, ou complication. Mais
est-ce qu'il y a via la Fondation canadienne du Rein du Québec ou par d'autres organisations, de l'aide pour encadrer ce processus-là, c'est-à-dire, il faut avertir l'employeur, donc comment on encadre la personne qui va donner un rein ou encore, le retour aux activités étape par étape. Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ça et un encadrement qui est offert?
Il y a deux types, je dirais, d'encadrement. Pour faciliter ça, je vais vous parler d'un premier et ensuite du deuxième. Donc, le premier, on a mis en place, suite à des demandes de la Fondation canadienne du Rein, le gouvernement du Québec a mis en place un programme de remboursement des dépenses du donneur vivant. Déjà, on voulait s'assurer effectivement que ce geste-là d'une très, très grande générosité, au moins la personne qui le fait ne sera pas pénalisée financièrement. Bien entendu, on ne parle pas de payer un donneur pour un rein parce que c'est complètement illégal de vendre un rein ou quoi que ce soit. Mais on parle de rembourser des dépenses, que ce soit des dépenses de déplacement, des dépenses de stationnement, des repas, même en tout dernier lieu, un remboursement de dépenses de perte d'emploi. Je dis en tout dernier lieu parce que si la personne a déjà accès, par exemple, à une assurance collective de son employeur et qu'elle est couverte et tout ça, bien, c'est préférable qu'elle soit remboursée par son assurance collective. C'est déjà plus intéressant parce que le maximum là, de remboursement pour les dépenses, c'est 5 715 $. C'est pas immense.
Non.
Ça, c'est la première mesure d'appui aux donneurs en 2010, ce programme-là a été implanté par le gouvernement du Québec suite à des demandes de la Fondation du Rein. Les autres mesures d'appui, je vous dirais, c'est plus au niveau des professionnels de la santé au niveau du centre de grève. Vous disiez tout à l'heure comment réintégrer l'emploi, est-ce qu'il y a des choses à faire attention. Bien, ça, c'est des choses que les professionnels médicaux vont communiquer aux patients. Le donneur va revenir et il va avoir des examens, puis on va lui confirmer là, qu'il est en bonne santé et qu'il peut reprendre le travail, ces choses-là. Donc, ce genre de mesures-là, c'est des choses, effectivement, que c'est le service de grève du centre hospitalier mm-hmm. qui va encadrer le donneur à ce niveau-là. Par la suite, à plus long terme, les donneurs bénéficient d'un suivi annuel. Là, c'est sûr qu'immédiatement, après le don, il y a des suivis plus réguliers. Puis à plus long terme, ce qui est intéressant, c'est que le donneur va bénéficier d'un suivi annuel pour s'assurer effectivement que ses reins sont en bonne santé. Son rein,
oui. Dans ce cas-ci, c'est au son singulier.
Rein.
Ouais.
Oui, son rein est en bonne santé et qu'il le préserve le plus longtemps possible, oui. Effectivement. Donc,
on parlait, Martin, qu'il est possible de vivre avec un seul rein, mais est-ce que ça change quelque chose pour le donneur dans son quotidien? Est-ce que
non.
Ça change des choses? Non?
Ça ne change rien. En fait, on a... on bénéficie, en fait, de chaque être humain, sauf exception, a deux reins. Et avec deux reins, on a plus que la capacité dont on a besoin, de la capacité de filtration et tout ça. Donc, avec un rein, on peut très bien vivre. Et les gens, on connaît quand même beaucoup de donneurs à la Fondation. Puis ces gens-là nous disent. Et par ailleurs, j'invite les gens à aller voir le site jedonneunrein.ca.
Oui.
Il y a des témoignages de donneurs sur ce site-là, et donc ça peut répondre aussi à des questions qu'ils peuvent avoir.
Mais ça demeure tout de même un geste altruisme, un grand geste, un beau geste, et bien sûr, on n'a pas parlé aujourd'hui parce que c'était pas l'angle de ma discussion, de ce que je voulais aborder avec vous, Martin Monger, de toutes les retombées positives pour le receveur. Mais on peut quand même en glisser un mot parce que vous en rencontrez, vous aussi, du côté de la Fondation. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là?
Bien, ça me fait plaisir d'en glisser un mot, effectivement, parce que oui, c'est un geste d'une très, très grande générosité, je dirais, pour lequel il y a peu de comparables là, dans une vie.
Ouais.
Et oui, bien, la première retombée positive, c'est souvent que le proche, la personne qu'on aime, va beaucoup mieux parce que le changement, en général, est radical lorsque la personne est greffée. Donc, si c'est un conjoint, un de nos enfants, nos parents, bien écoutez, c'est déjà une première retombée de voir que la vie du receveur a changé du tout au tout. C'est la première retombée positive. Souvent aussi, les gens ont une très grande satisfaction d'avoir posé un geste d'une telle générosité. Donc ça aussi, c'est une retombée positive là, pour la personne, le fait d'avoir posé un geste d'une grande générosité et donc le fait aussi d'avoir contribué à changer d'une manière radicale, à améliorer d'une manière radicale la vie d'une personne. Puis souvent, c'est une personne qu'on aime, un proche. Donc, c'est, je dirais, incomparable comme sensation.
www.jedonneunrein.ca. Martin Monger, je rappelle, vous êtes le directeur général de la Fondation canadienne du Rein Division Québec. Ça a été un plaisir de vous parler et d'en apprendre davantage sur le don du rein. On n'en parle pas souvent, on n'en parle peut-être pas assez, mais avec votre site qui est très, très bien fait et qui vulgarise très bien l'information, je pense que ça aura des suites.
Bien, le plaisir est réciproque. Je vous remercie beaucoup de nous avoir contactés.
Au revoir.
Bonjour.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour, Lynne Cloutier.
Oui, bonjour.
J'ai de la suite dans les idées sans le savoir parce que mon premier sujet est un petit peu en lien avec la suite de l'émission, à savoir l'hypertension artérielle. Je parlais avec Martin Munger qui, lui, on parlait de dons de reins finalement et que l'hypertension artérielle peut être une entrave finalement à pouvoir donner un rein de son vivant. Et en même temps, ça touche beaucoup de Canadiens. Un adulte sur cinq souffre d'hypertension et plus on vieillit, plus on est sujet d'en souffrir. Je parle de souffrir Lynn Cloutier, mais en même temps, est-ce qu'il y a des symptômes qui sont vraiment... est-ce qu'on peut vraiment les ressentir, les symptômes de l'hypertension artérielle?
Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. En effet, très souvent, on entend l'appellation de l'hypertension artérielle, on entend un synonyme qui est le tueur silencieux.
Ouais.
L'hypertension artérielle, contrairement au mythe, comme quoi on pourrait la ressentir, c'est-à-dire ressentir avoir des maux de tête... Très souvent, l'hypertension artérielle, justement, est silencieuse. On ne la ressent pas. Elle a des effets sur les vaisseaux sanguins, sur le cœur, le cerveau, les reins, sans qu'on s'en rende compte.
Mm-hmm.
Et vous nous disiez qu'un adulte sur cinq est atteint d'hypertension artérielle au Canada, mais il faut savoir qu'après 65 ans, c'est un adulte sur deux. Donc, c'est très fréquent.
C'est quoi une pression? Plutôt, là, on parle de pression normale, dite normale.
Oui. Bien, alors, la pression artérielle, c'est la force qui est exercée sur les vaisseaux sanguins lorsque le cœur pousse le sang. Et une pression qu'on pourrait dire qui peut causer des dommages, c'est une pression qui serait plus élevée que 140 sur 90. Alors, au-delà de ces chiffres-là, de 140 sur 90, on parle de la possibilité d'avoir des complications. Mais encore là, il faut savoir qu'une pression artérielle qui se situe autour de 120 sur 80 est vraiment une pression artérielle qu'on pourrait appeler idéale.
Et on fait comment pour savoir ça? Est-ce qu'on doit demander à notre médecin de prendre notre pression à chaque année ou on peut aller à la pharmacie par nous-mêmes observer notre pression artérielle?
Bien, vous avez raison. En fait, il y a plusieurs façons. C'est maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus accessible. Donc, comme vous le disiez, chaque année, il faudrait au moins qu'une fois par année, il y ait un professionnel, que ce soit un pharmacien, une infirmière praticienne spécialisée ou encore un médecin, mesure notre pression artérielle. Mais on peut également aller à la pharmacie ou même si un membre de notre famille possède un appareil de mesure de la pression artérielle, c'est souvent le cas maintenant, on peut simplement mesurer la pression artérielle. Sans vouloir inquiéter les gens, lorsque la pression est au-delà de 140 sur 90, on devrait consulter un professionnel de la santé dans les mois qui suivent.
Et si on a 65 ans et plus, ben c'est encore plus important de faire ces tests-là de façon annuelle.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus que même au-delà de 65 ans, c'est possible de commencer à traiter l'hypertension artérielle. Puis on peut encore, il y a des études récentes qui ont démontré qu'on peut encore retirer de grands bénéfices à traiter l'hypertension artérielle avec des médicaments qui aujourd'hui sont plus efficaces à des dosages moindres avec moins d'effets secondaires. Donc, c'est important de dépister l'hypertension artérielle.
C'est quoi les causes?
Alors là, les causes, en fait, sont pas complètement élucidées. Il y a une part certainement qui est génétique, il y a une part qui est héréditaire, mais il faut aussi savoir, et ça c'est une bonne nouvelle, qu'il y a des causes des facteurs de risque qui sont modifiables, comme vous en parliez plus tôt, la consommation de sodium ou encore le fait d'être sédentaire, de ne pas bouger suffisamment. Alors, c'est ce qui me fait dire qu'en ayant une meilleure alimentation, en étant plus actif, et ce, chaque jour, en réduisant sa consommation d'alcool et en évitant le tabac, on peut contrôler l'hypertension artérielle ou la prévenir.
Est-ce que le stress peut être un facteur?
Oui, certainement. Quoi qu'il n'y ait pas de lien direct entre le fait d'avoir du stress et d'être hypertendu, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on est stressé, on fait souvent des choix de vie qui sont moins intéressants. On est plus pressé, donc on va au restaurant, on mange de la nourriture préparée, peut-être de la restauration rapide, on va consommer davantage d'alcool, peut-être pas prendre le temps de faire de l'activité physique. Donc, le stress en soi, on n'a pas un lien direct. Bon, c'est certainement un lien avec l'adoption de bonnes habitudes de vie.
Et ça touche autant les hommes que les femmes, l'hypertension artérielle?
Oui, tout à fait. C'est un peu plus, les hommes sont un peu plus, c'est un peu plus propice d'avoir des complications cardiovasculaires pour les hommes. Mais malheureusement, les femmes, au cours des années, ont rattrapé les hommes parce qu'elles ont adopté un mode de vie qui est très similaire à celui des hommes.
Et de quelle façon le sel a un impact sur notre tension, notre pression plutôt. Là.
Oui, tout à fait. Alors, bien, la pression, l'hypertension artérielle, c'est une maladie des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux qui durcissent et qui demandent au cœur de pousser plus fort pour faire irriguer, pour amener le sang vers nos tissus, nos organes. Et le sel vient contribuer à ce durcissement des artères et à faire en sorte que le cœur doive travailler beaucoup plus fort.
On parlait de traitements qui sont maintenant efficaces, Lynn. Est-ce que ça veut dire que ça peut se résorber, l'hypertension artérielle? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser à un moment donné?
En fait, on peut arriver à contrôler les chiffres de la pression artérielle. On peut arriver à contrôler, mais il faut savoir que lorsqu'on a diagnostiqué l'hypertension artérielle, la maladie, elle est présente chez nous. Alors, un bon contrôle des habitudes de vie, une perte de poids, l'activité physique pourrait nous aider à maintenir les chiffres en dessous de 140 sur 90. Mais il faut savoir que l'hypertension artérielle, ça amène des complications. Ça amène des complications au cœur, au rein, comme vous en parliez tout à l'heure, ou encore, ça peut amener des démences vasculaires. Vous parliez tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi des démences vasculaires, des pertes cognitives qui sont liées à l'hypertension artérielle. Alors, le fait de garder ces chiffres en dessous de 140 sur 90 peut aider à prévenir les complications. Donc oui, les habitudes de vie, mais si on n'y arrive pas pour une raison ou une autre, c'est important de prendre la médication et surtout d'y être fidèle, de la prendre de la façon dont le professionnel de la santé vous l'aura conseillé.
Et les médicaments, est-ce qu'ils amènent des effets secondaires ou qu'ils ont des interactions, par exemple, avec d'autres médicaments?
Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas nier que les antihypertenseurs, comme d'autres médicaments, peuvent avoir des effets secondaires. Comme je le mentionnais tout à l'heure, toutefois, on utilise maintenant, on connaît mieux les médicaments, on utilise de plus faibles dosages. Et l'autre chose, c'est que votre professionnel de la santé vous conseillera également probablement de combiner deux médicaments ou trois médicaments à plus faible dose pour profiter de l'ensemble des avantages qu'ils peuvent nous procurer tout en ayant moins d'effets secondaires.
Ouais, mais si on peut repousser l'hypertension artérielle par de saines habitudes de vie, ça peut être une belle option aussi.
Tout à fait. On peut repousser l'apparition de l'hypertension artérielle, mais même lorsqu'on est atteint et qu'on prend un médicament, le fait d'adopter et surtout de maintenir des bonnes habitudes de vie, ça peut empêcher les vaisseaux de se détériorer et de nous obliger à ajouter un médicament ou un troisième médicament. Alors, même une fois qu'on a commencé un médicament, on peut encore faire beaucoup en adoptant de bonnes habitudes de vie.
Alors, hypertension.qc.ca ou encore hypertension.ca pour plus de détails, plus d'informations. Lynn Cloutier, je rappelle, vous êtes infirmière, également professeure titulaire au département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières et également directrice du groupe interdisciplinaire de recherche appliquée en santé. Je ne pouvais pas trouver mieux pour parler d'hypertension artérielle. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Eh bien, on se salue, on se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye-bye.